Les radios du CRLO, collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, vous proposent une série de 12 magazines inédits pour découvrir la poésie et la richesse des auteurs occitans. Des Troubadours à Félix Castan, un document radiophonique qui évoque la littérature ou la poésie des auteurs occitans du XIIe siècle à l'an 2000. Des chants courtois au Fabulous Troubadour, un projet du CRLO.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode consacré à une langue millénaire, l'occitan, et à l'un de ses plus grands défenseurs, Max Rouquette. Cette langue chantante et enracinée dans les terres du sud de la France a réussi à traverser les siècles et les frontières, en grande partie grâce à une littérature d'une immense richesse. C'est la langue des troubadours, celle des chants d'amour courtois, mais aussi une langue de résistance et de poésie, qui continue de vibrer à travers des écrivains, des chanteurs et des poètes contemporains. Parmi eux, Max Rouquette, écrivain et dramaturge de génie, a su redonner à cette langue ses lettres de noblesse dans un monde en pleine mutation. Nous allons dans cet épisode nous intéresser à son œuvre générale, mais nous mettrons l'accent sur l'un de ses nombreux recueils de prose narrative, Vers Paradis, et plus particulièrement à la fable L'Atao de John Harrick Fabre, le tombeau de Jean-Henri Fabre. Nous avons pour cela rencontré deux spécialistes de Max Rouquette. Jean-Frédéric Brun, qui dirige le site web et la revue dédiée à Max Rouquette et préside l'association Amistats Max Rouquette. Jean-Claude Fauré, enseignant de langue occitane à l'université Paul Valéry de Montpellier, à la retraite et éditeur de littérature occitane aux éditions Jour. Ainsi que Manon Combé, étudiante en deuxième année d'occitan à l'université Paul Valéry de Montpellier, qui nous a proposé une lecture d'un extrait de la fable Le tombeau de Jean-Henri Fabre. Que vous soyez déjà amoureux de l'occitan ou simplement curieux de découvrir cette langue fascinante, préparez-vous à un voyage littéraire, poétique et humain aux côtés de l'un des plus grands poètes occitans du XXe siècle. Max Rouquette est un écrivain français de langue occitane né le 8 décembre 1908 à Argeliers, petit village situé entre Montpellier et le Causse du Larzac dans l'Hérault. Après une enfance très marquée par le contact avec la nature, immergé dans la langue occitane, il poursuit ses études au lycée de Montpellier. Le choix de l'occitan comme langue d'écriture est directement lié à cette enfance et à cette langue parlée dans le village. Langue méprisée, celle des plus pauvres et des plus humbles, mais aussi langue élue par quelques grands de la littérature occitane comme Frédéric Mistral ou Joseph Darbo. Durant ses années d'études, il découvre le monde de l'écriture. Il étudie la médecine dans l'antique faculté de la ville de Montpellier, s'impliquant dans la vie étudiante et notamment dans une association, le Nouveau Languedoc, dont il contribue à faire un outil de diffusion et de valorisation de la culture occitane. Rouquette, Le Zaffre, Barthes et Donadieu vont apporter au début des années 30 un dynamisme remarquable à ce petit groupement étudiant. Ils feront de l'occitanité l'élégance de la mode estudiantine montpelliéraine. Il y aura plus de 300 adhérents et le Nouveau Languedoc publiera un fascicule annuel contenant des chroniques et des textes littéraires en occitan. Il n'a jamais vraiment séparé son engagement littéraire du combat pour la langue et la culture doc. Militant de l'occitanisme étudiant avec le mouvement du Nouveau Languedoc, animateur de la Société d'études occitanes avant la guerre et rédacteur de la revue Occitania, il fut un des fondateurs de l'Institut d'études occitanes à la Libération. Plus tard, il dirigera depuis Montpellier, au temps du franquisme, la revue Vida Nova, une revue trimestrielle occitano-catalane qui permet aux écrivains catalans espagnols en exil de s'exprimer dans leur langue. En 1962, il forme, en compagnie de Jean Camp et Georges Reboul, le Pen Club de Languedoc, dont il devient le président. On le retrouve encore, au début des années 80, à la tête de la revue Hoc, foyer majeur de l'écriture occitane moderne depuis les années 1920. Durant 10 années, il exerce la profession de médecin à Agnan et Montpellier et est également un grand amateur du jeu traditionnel de bal, le tambourin, discipline à laquelle il a aussi consacré plusieurs ouvrages. Il est l'auteur d'une œuvre foisonnante de prose, de poésie et d'œuvres théâtrales à la dimension universelle. Écrite en occitan, cette œuvre a dû attendre les premières traductions avant d'être reconnue en France et dans de nombreux pays. Vert Paradis a connu ses premières traductions françaises en 1981. Elle représente l'œuvre centrale de Max Rouquette, ce recueil de courts récits est d'ailleurs considéré tout simplement comme son chef-d'œuvre. Max Rouquette est sacré commandeur des arts et des lettres en 1996. Il s'est éteint à Montpellier le 24 juin 2005 à l'âge de 96 ans et laisse une œuvre immense encore en cours de publication, Max Rouquette ayant écrit jusqu'à son dernier souffle. À sa mort, Le Monde le décrit comme le plus grand écrivain de Languedoc.
La fable Le tombeau de Jean-Henri Fabre de Max Rouquette a été publiée dans le recueil Vert Paradis 2, paru en 1974. Elle a été écrite en 1955, dans une période où la France connaît de profondes mutations sociales et culturelles. Dans les années 50 et 60, la France traverse une phase de modernisation accélérée avec les Trente Glorieuses. L'industrialisation transforme les paysages des campagnes du sud de la France et les modes de vie traditionnels disparaissent progressivement, en pleine mutation, tout comme les liens profonds entre les communautés rurales et leur environnement naturel. Cette transformation est vécue comme une perte par certains, notamment les défenseurs des langues et des cultures régionales comme Max Rouquette. Ce texte, qu'on peut considérer comme un hommage et une réflexion sur le rapport entre l'homme et la nature, s'inscrit dans ce contexte de modernisation rapide qui bouleverse le lien traditionnel entre l'homme et son environnement. Jean-Henri Fabre est un naturaliste du 19e siècle, décédé en 1915 pendant la Première Guerre mondiale. Son époque est celle du positivisme triomphant, où la science prend une place centrale dans la compréhension du monde. À l'opposé de cela, Jean-Henri Fabre se démarque par sa sensibilité poétique et ses œuvres témoignent d'une admiration profonde pour la nature. Max Rouquette, lui, est né en 1908 à Argeliers dans l'Hérault et a grandi dans une France d'après-guerre où la modernité s'accélère et avec elle l'urbanisation, l'industrialisation et l'effacement des cultures régionales. C'est aussi une période où la centralisation du pouvoir politique et culturel à Paris marginalise les langues régionales comme l'occitan. Dans ce contexte, Le tombeau de Jean-Henri Fabre peut être interprété comme un manifeste en faveur d'une autre vision du monde, moins moderne. Il exprime une nostalgie pour une époque où l'homme vivait encore en symbiose avec la nature, où l'observation des insectes et des plantes permettait de comprendre la beauté du monde sans le détruire. Toute sa vie, Max Rouquette a lutté pour préserver et faire revivre cette langue. Son choix de rendre hommage à Jean-Henri Fabre dans cette fable prend alors tout son sens.
Bonjour à tous, m'appelle Manon Kumbet, suis étudiante en secundanade d'Occita à l'Universitat Paul Valéry à Montpellier et bao vous l'ai dit une extrait de la fable de Max Rouquette qui s'intitule La Tao de Joan Enric Fabre. Erandu sa centragacha, rouge de fioc, le mantel boulant, fernissant, encar d'aubao, sus le courcelou de cède nègre. Prime, bombissant d'aki d'alai, comme palme ou plume au vin. Agut, amé des cops, subran, à quel biais des semblants, tout ou des mêmes bras, d'une savait pas qu'en absence. Et l'autre, la ragne d'au ventre et douce, redoune et blanque, et veloussat et tendre, s'imprène espère. Son douce verrin, escondu d'une sas boucos, podia seca d'une poutou breu, le galant mai rufe. À quel espère passe la telle ni le saut, vendrech sus la ragne, flambe dure. Un lioc de défugi, à quoi est-ce qu'il pique? De que bao? La tarentelle a comme une sentie d'escure d'une son aime, des sauts qu'espère-elle à quel encontre. Que sa vie de lure s'entanche et qu'elle accoule le boulet d'aquel dansaille réprime, et que, sous ta quelle élégantesse tapade des rouches, tant l'est qui semble l'espène de l'air de l'estiu, flouté de gens et voulastré de gens comme à la flade d'auvin, c'est rescousse une année qui le mène, une endormidouille nascude d'une poutou des fiocs. Fugis passe et s'égarde. Jogue l'autre, une branle des balances qui potent en estre une mène d'embelline aux mains. Fal au semblant de ses nanas. Mas, permis où ça resta. Et ar, une comme l'autre, le sautaire bauch et la femelle d'au ventre douce sont pas plus qu'agache. Et ces mesclons a déjà, une à l'autre, cadune bévène de l'autre, dit le mai fond sud de son agache. Elles enclausi de per aquel estrangère arderousse, flambe voulante, sempre à tout cas et sempre lundane, vouladis au cop et recueillide. Au fond des laigues des yols, dormis la blande d'audési. D'une laigue des yols, lusis la flambe unenque des cadus. Sous rebat venon en lusi, le mirail fonsut. Ezaki ke cadum benker l'autre, s'avertat, souques, souque pense, souque beau. Es aquí que la mirade des cadunes se vint prenne comme la mousque à la telaragne. Las cadenes de l'amour sont des fios de luz. Ça c'est des mailles dures qu'elle ferre. À quoi est une joc des mirais, que s'infine serrément dans sa luz. Et mai si a pas que son rebat cadu ne faille son meo. À qui l'incant tout est tout à commence. L'aigle des yols, est-ce pas que perd la fille.
Le tombeau de Jean-Henri Fabre décrit la lutte à mort entre une guêpe et une tarentule dans le désert du Nevada. Le terme « tombeau » du titre est utilisé dans le sens de « tombeau littéraire », donc « d'hommage ». Ce texte est un hommage que Max Rouquette a voulu faire à Jean-Henri Fabre. Le texte auquel nous nous intéressons est un extrait puissant et poétique, un affrontement fascinant entre deux créatures, une mystérieuse danseuse rouge, la guêpe, et une araignée, symbole à la fois de vulnérabilité et de danger. C'est une lutte à mort, mais aussi une parade amoureuse. Cet extrait commence par une scène d'observation, deux êtres face à face, presque immobiles, mais dont l'affrontement silencieux est déjà chargé de tension. Le premier personnage, cet être rouge-feu au corset de soie noire, semble être l'incarnation du mouvement, de la tonicité. L'image du danseur fou évoque un être à la fois séducteur et dangereux. Ses mouvements évoquent donc la danse, une danse de séduction, mais aussi de mort. En face de cet être, il y a la tarentule. Elle est symbole de la patience, du piège et du mystère, et elle incarne une toute autre énergie. Elle est décrite comme ayant un ventre doux, rond et blanc, tendre et velouté. Elle est douce et tendre, mais cette tendresse dissimule un venin mortel. Le texte nous montre un contraste fondamental entre deux forces. D'un côté, une énergie brute, débordante, et de l'autre, une force plus contenue, qui est prête à bondir au moment opportun. Ce qui est notable dans ce passage, c'est l'inversion des rôles habituels. On pourrait s'attendre à ce que la tarentule, souvent perçue comme une créature dangereuse et calculatrice, tisse sa toile et attende son heure pour attaquer. Mais ici, c'est l'inverse. C'est l'autre, la guêpe, qui prend l'initiative, qui fonce droit sur l'araignée, flamme d'acier. Cela renvoie l'araignée dans un rôle de protection. Elle ne fuit pas mais cherche à se protéger, consciente du destin qui l'attend probablement. Elle sait que son pouvoir, aussi redoutable soit-il, sera vaincu par celui de ce danseur mince, cet être élégant et vif qui semble porter en lui sa propre destruction. Ce texte, finalement, au-delà de la scène de nature, nous parle du jeu complexe de la séduction, des regards qui se croisent, se cherchent et finissent par se trouver. Il nous parle de l'attirance irrésistible et floue entre deux êtres, de cette fascination réciproque qui devient un miroir où chacun contemple non seulement l'autre, mais aussi soi-même dans le regard de l'autre. Cette danse, sous couvert d'attaque, symbolise cette flamme intérieure du désir, cette passion qui brûle, qui consume. Max Rouquette parvient ainsi, à travers le combat de la tarentule et de la guêpe, à amener sur une réflexion plus universelle sur les relations humaines. La recherche du regard de l'autre est ici décrite comme un jeu de miroir, une répétition infinie où chacun se délecte de son propre reflet. L'autre devient un miroir de nos propres désirs, un reflet de ce que nous sommes au plus profond. Max Rouquette écrit « C'est là que chacun vient chercher l'autre, sa propre vérité, ce qu'il est, ce qu'il pense, ce qu'il veut. » S'ensuit la description des chaînes de l'amour comme des fils de lumière, à laquelle on peut trouver une double lecture. L'amour est à la fois un enchantement, une merveille, mais aussi un piège, une contrainte plus rigide que le fer, que des chaînes. Et cet enchantement, nous dit le texte, marque le début de tout. Ce jeu de miroir, de regard et d'approche soudaine est un jeu enivrant, mais Max Rouquette nous prévient déjà que ce jeu, aussi beau soit-il, mène inévitablement à une fin. La passion, la fascination du début ne sont que temporaires. Là où tout commence, il y a enchantement, mais tout a une fin. Il y a donc une forme de tragédie dans cet échange, un sentiment que tout cela finira mal. Ce texte a pour thème celui de l'agonie. C'est un thème que l'on retrouve beaucoup dans Vers Paradis. Ici, cependant, il s'agit de l'agonie paisible. La tarentule finit par mourir, elle s'endort et accepte sa défaite. C'est une agonie paisible, car le personnage finit par se fondre dans le grand tout, l'univers. Ce texte est un peu une façon pour Max Rouquette d'apprivoiser la mort.
Jean-Frédéric Brun, vous êtes écrivain en langue occitane, médecin hospitalier et chercheur. Vous présidez l'association Amistats Max Roquette, dont l'objectif est de perpétuer et faire mieux connaître l'œuvre du grand écrivain. Bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Claude Fauré, d'abord professeur de français en lycée, vous avez ensuite enseigné la langue et la littérature occitane à l'université Paul Valéry de Montpellier et êtes désormais retraité. Vous êtes également président des éditions Jour et vous avez écrit de nombreuses œuvres, articles et comptes rendus sur la littérature occitane. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, Jean-Frédéric Brun, il est difficile de passer à côté des nombreux points communs qui subsistent entre Max Roquette et vous. Médecin puis grand amateur et écrivain en langue occitane, Max Roquette a-t-il été une inspiration pour vous et dans vos choix de carrière ?
Eh bien, pas tout de suite, en fait, ça a été une convergence. J'ai découvert l'occitan et le fait surtout qu'il y avait une littérature à l'adolescence. Je commençais à écrire des textes et j'étais étudiant en médecine. Et c'est un peu Max qui a repéré un certain nombre de jeunes pour essayer de les mettre davantage dans le coup. On était un peu timide par rapport à des personnages imposants comme lui. Et donc, c'est vrai qu'après, la convergence, c'est qu'on était du même sous-dialecte occitan, qui est celui de Montpellier, avec une fréquentation des garrigues, qui correspondent à une sensibilité particulière du paysage. Et nous étions tous les deux médecins. Pas le même genre de médecine, mais donc il y avait une connivence qui s'est faite au fil des années et une longue amitié jusqu'à sa mort. Donc en gros entre 1975 ou 76 et son décès. Et donc effectivement Max m'a beaucoup influencé par la suite petit à petit parce que son œuvre en occitan n'est pas si accessible que ça. C'est une langue très sophistiquée qu'on apprend à apprécier quand on a vraiment bien étudié l'occitan. Et je découvre même maintenant, en le lisant, d'autres beautés dans des tournures de phrases et dans des passages de ses œuvres.
Vous avez été son élève. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur cette rencontre et cette expérience ? Dans quelle discipline ? Comment ça a pu marquer un tournant dans votre vie, peut-être ?
J'avais une décision d'adolescence. Je me suis dit, ta langue, c'est l'occitan. À l'époque, on l'entendait parler, mais c'était quelque chose que les gens ne remarquaient pas, mais il y avait beaucoup de locuteurs. Et quand j'ai découvert qu'il y avait une littérature, je me suis dit, tu n'as pas le droit d'habiter dans cette région et de pas à maîtriser la langue. Et donc, c'était assez facile de trouver les meilleurs professeurs qui étaient les bergers, les gardiens de taureaux et autres qui parlaient que comme ça à l'époque. Et puis, donc, ça devait être en 1977. J'ai eu un coup de téléphone de Max Roquette qui m'a proposé d'aller avec lui et avec un autre écrivain occitan qui s'appelait Max Allier à Toulouse pour une réunion de la revue Hoc. Donc c'était une revue historique de la littérature d'Hoc qui avait été fondée par un grand personnage qui s'appelait Ismaël Girard qui a joué un très grand rôle dans la renaissance de l'Occitan au XXe siècle. Et là j'ai pu rencontrer une série de personnages extraordinaires qui m'ont beaucoup marqué. En plus de Max, il y avait Bernard Mancier, Félix Castan, René Nelly. C'était vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué. C'était des gens d'une grande culture, d'une très forte personnalité, et c'est sûr qu'ils m'ont profondément marqué.
Jean-Claude Fauré, donc vous avez publié plusieurs romans, mais aussi du théâtre en occitan. Comment est née cette passion pour l'occitan ? Comment avez-vous découvert Max Roquette ? Et comment a-t-il influé votre pratique de l'écriture occitane ?
C'est une question d'origine. Je suis né à Lyon et j'ai grandi entre Lyon et l'Ardèche. Or, comme vous le savez, l'Ardèche fait partie du domaine occitan. À l'époque, j'entendais parler patois presque partout en Ardèche. J'aimais beaucoup ce pays où j'allais pendant les vacances. J'ai fini par confondre paysage et langage et exactement comme Jean-Frédéric, je me suis dit qu'on ne pouvait pas aimer un paysage, se confondre avec lui, sans en parler la langue. Et pour moi, apprendre une langue, c'est lire sa littérature. J'ai fait ça pour toutes les langues que je parle. J'ai beaucoup lu leur littérature. Eh bien, on commence par Jean Boudou, d'Aveyron, Robert Laffont, de Nîmes, d'origine. Et puis, bien entendu, Max Roquette de Montpellier. Donc je suis très tôt tombé dans Max Roquette et je dois dire que cette première rencontre de lecture a été pour moi une révélation, un éblouissement.
Quelle place occupe la nature dans les écrits de Max Roquette ?
Les premiers textes de Max Roquette se référaient à une sorte de paradis perdu. Il m'a bien raconté ça quand je l'avais interviewé pour lui faire raconter ses souvenirs. Vers l'âge de 6 ou 7 ans, il est sorti dans la rue de son village Et il a découvert, avec les jeunes garnements de son âge, la nature et la langue occitane en même temps. Et donc, c'est le paradis de l'enfance. Et comme on va le revoir, son livre s'appellera « Vers paradis », un peu par antiphrase, puisque c'est un paradis qui a un aspect terrible et cruel. Et donc, Max, toute sa vie, a puisé dans ses souvenirs d'enfance cette sensation de la langue qui décrit cette nature. Au départ, on ne savait pas trop comment s'appellerait le recueil de nouvelles qu'il a distillé pendant 15 ou 20 ans. Les gens pensaient qu'il s'appellerait « Loup libre des natures », le livre de la nature. Et finalement, il a choisi « Vers paradis ». Il a eu « Vers paradis 1 »,« Vers paradis 2 ». Et puis, il nous annonçait qu'il y aurait 3, 4, 5, 6. Et effectivement, il est resté fidèle à ce concept. Et c'est un petit peu comme quand Milton écrivait « Lost Paradise », le paradis perdu. En permanence, Max a eu besoin de revenir à la nature comme un bain de jouvence, et la langue était absolument consubstantielle à ce retour.
Vers paradis, c'est bien sûr le paradis perdu. Alors, allusion à Baudelaire dont Max Rouquette avait un portrait dans son bureau, hein, qui l'accompagnait toujours. Ce vers paradis, c'est celui de l'enfance, le vers paradis perdu de l'enfance. Il a perdu sa mère à 8 ou 9 ans. Cette perte n'a fait qu'aggraver ce deuil de la nature. Donc, il y a une série de coupures successives. On perd sa mère, l'enfance s'éloigne, et du même coup, toute la nature à laquelle elle est associée est perdue, elle aussi.
On a un petit peu évoqué, Max Rouquette est avant tout un poète occitan. Pouvez-vous nous parler un petit peu du rapport de Max Rouquette à la langue occitane? Qu'est-ce que l'occitan a pu lui apporter?
Alors c'est très intéressant. Finalement, l'itinéraire de tous les auteurs occitans contient un moment de révélation, une sorte de flash à un moment donné. Et pour Max Rouquette, donc, il avait découvert la langue d'oc qu'il parlait avec ses compagnons du village. Et puis un jour, avec son père, ils étaient en train de ramasser des mauvaises herbes. Et son père lui a cité une strophe de Mireille de Mistral. Ça a été un éblouissement. Max s'est rendu compte que la langue qu'il parlait à la campagne, qui n'avait pas le statut de langue, pouvait être une grande langue de littérature. Et c'est à partir de ça, à ce moment-là, qu'il s'est intéressé. Alors, il a rencontré à Montpellier une série de personnages très intéressants, dont notamment François de Zeuze, l'Escoutaire, qui était entre autres un auteur de théâtre. Son théâtre va faire partie des grandes influences que Max a reçues pour faire lui-même un projet de théâtre en occitan. Et donc, toute sa vie, il a travaillé à reprendre le parler de son enfance pour en faire une langue littéraire de très haute tenue qui puisse vraiment embrasser toute la réalité du monde. Il a continué à y travailler toute sa vie avec un réel succès. Alors, effectivement, on va parler de la traduction un peu plus loin. Pourquoi ne s'est-il pas tenu au français? C'est vrai que Max parlait et écrivait un français très châtillé, comme les gens de son époque. C'est un très beau français, mais finalement, il ne disait pas les mêmes choses. Et alors, l'occitan, je crois que tous, quand nous choisissons de l'écrire, c'est que c'est aussi un espace de transgression. Ça a l'avantage d'être une langue qui a des classiques, a une littérature très importante, avec des centaines d'auteurs, dont beaucoup d'auteurs de qualité. Et puis également, c'est une langue sauvage, en friche. Et donc, avec le parler populaire dans lequel il a baigné, ça lui servait pour repenser ses phrases, repenser sa syntaxe et donc aboutir au texte que nous pouvons lire.
Max Rouquette s'est forgé une langue à partir de l'occitan qu'il entendait parler par ses petits copains d'Argeliès et à partir d'un livre qu'il a découvert dans le grenier, la Bible de Port-Royal, la Bible de Sylvestre de Sacy, avec une belle langue, de longues périodes classiques. Avec ces deux éléments, oraux et écrits, il s'est forgé une langue, d'où de longues phrases qui se déploient en volute, mais qui en même temps contiennent des expressions puisées dans l'oralité populaire. C'est de ce mélange, de cet alliage, qu'est né le style de Max Rouquette.
Aujourd'hui, nous avons fait le choix de nous intéresser à l'œuvre centrale de la vie de Max Rouquette, donc il s'agit donc de Vers paradis, et spécifiquement à la fable qui s'intitule Le tombeau de Jean-Henri Fabre. Pouvez-vous nous dire ce que vous évoque cette fable?
Alors, attention, tombeau, ici, c'est hommage. C'est ce sens-là, l'atahut des Jean-Henri Fabre. C'est un hommage qu'il a voulu rendre à Jean-Henri Fabre, l'entomologiste célèbre qui, d'ailleurs, a écrit toute une œuvre poétique en provençal. D'ailleurs, quand on va à Saint-Léonce de Lévezou, à Micropolis, il est dommage de voir que le mot « bienvenue » est décliné dans toutes les langues, sauf dans la langue originelle de Jean-Henri Fabre, c'est-à-dire l'occitan. Il y a « welcome », enfin « willkommen », tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas « plabengut ». C'est une parenthèse, mais c'est significatif aussi du mépris dans lequel est tombée cette noble langue occitane. Max Rouquet a lu, quelque part, un article sur le combat entre la guêpe Pepsis et la tarentule du désert. Et ça, ça se passe en Amérique. Ce combat fait de violence et d'érotisme, de mort et d'amour, l'a fasciné. Et donc, il en a fait, plus qu'une fable, une méditation sur la proximité entre l'amour et la mort.
C'est intéressant de mettre l'accent sur ce texte parce que ce n'est pas celui auquel on pense tout d'abord quand on commente Vers Paradis. C'est un texte qui date d'autour de 1950, si je me rappelle bien. Et en fait, Max avait vu un film où on voyait cette lutte entre les deux insectes, qui est une lutte à mort et qui pouvait être passée pour une parade amoureuse. Cette dualité, comme vient de le dire Jean-Claude, la fascinait, c'était tout à fait dans ses cordes, dans sa description d'une nature à la fois magnifique et terrible, avec la mort à la clé. C'est sans doute la première nouvelle de Max, qui n'a pas comme cadre les garrigues ou le pays. Petit à petit, il a élargi, bien sûr, le cadre des lieux où se passent ces textes, et c'est sans doute un des premiers. Et en fait, il est assez emblématique, c'est vraiment l'épure du texte rouquettien avec un magnifique récit qui aboutit au drame définitif, qu'on sent venir à mesure. Et c'est vrai que c'est un très beau texte, ça a été l'occasion de le relire pour cette discussion.
Et par ailleurs, on retrouve aussi un autre thème, c'est celui de l'agonie heureuse. Parce que l'araignée, la tarentule, finit par mourir, et elle s'endort, mais elle accepte sa défaite, se viole en quelque sorte. La guêpe dépose ses œufs qui vont devenir des larves qui vont se nourrir de la substance de la tarentule. Vers Paradis est plein d'agonies. Certaines sont des agonies heureuses, comme la mort de Costosulane. Enfin, des agonies paisibles, pas heureuses, mais paisibles, parce qu'on se fond dans le grand tout, dans l'univers. C'est une façon, peut-être, pour Max Rouquet, d'apprivoiser la mort.
Cette fable a donc été écrite en occitan, puis traduite en français. Trouvez-vous la traduction fidèle à la version originale, ou bien la finesse de la langue occitane dont vous parliez ne parvient pas à être transposée dans la traduction française ?
C'est sûr que la traduction est quelque chose d'essentiel pour toutes les langues, et notamment les langues minoritaires, pour pouvoir toucher un public. Mais pour l'occitan, on a vécu ça comme quelque chose de très difficile, parce que forcément, un auteur comme Max Rouquet a choisi cette langue pour dire des choses qu'il n'aurait pas facilement dites en français, et c'était après tout un travail d'essayer de faire un texte qui soit à la hauteur. Et en fait, il est certain que le texte français de Vers Paradis, c'est un peu autre chose que le texte en occitan. Il n'y a pas toute cette magie du vocabulaire. J'aurais tendance à dire, on a un film en blanc et noir muet, pour représenter un film en technicolor, cinémascope, stéréo. Malheureusement, c'est quand même un peu ça.
Mais c'est le problème de toute traduction. Il y a une perte et qu'il faut accepter.
Max Rouquet donc a d'abord publié ses œuvres en langue occitane, puis a ensuite été traduit en langue française. Qui s'est chargé de ces traductions ?
Alors c'est une histoire qui est assez amusante qu'on a suivie. C'est qu'un écrivain occitan qui s'appelle Alain Sure-Garcia s'est proposé pour un éditeur parisien de traduire Vers Paradis, et avec l'idée de faire reconnaître la littérature occitane avec une de ses œuvres principales. En fait, Max était très, très mécontent de la traduction d'Alain Sure-Garcia, il a beaucoup corrigé, et par la suite, c'est lui-même qui a fait ses traductions, avec donc son style, comme le style des grands auteurs français du début du XXe siècle, qui a séduit pas mal de lecteurs, je pense, mais qui, en fait, ne représente pas vraiment ce qu'on voit dans la prose occitane.
Max Rouquet a tendance d'ailleurs à se traduire plus littéralement qu'Alain Sure-Garcia. Il s'est auto-traduit, Max Rouquet, beaucoup, à partir de ce moment-là. Et ce qui caractérise ses traductions, c'est la littéralité.
Pour conclure, a-t-il rencontré un succès auprès du public dès le début ou bien la traduction française a-t-elle permis une plus large ouverture ?
Bon, c'est certain que la traduction française a tout changé. C'est un peu un tabou dans l'Occitan, on disait il ne faut pas se traduire, ça serait
une trahison,
une trahison de notre idéal, mais en fait c'était un isolement qui était suicidaire un peu, donc c'était très bien de faire cette traduction. Et quelques années après, finalement, Max a été mis à l'honneur, notamment au niveau de la région Languedoc-Roussillon de l'époque, comme une des grandes voix littéraires de la région, donc il avait 70 ans à peu près, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à être connu, à passer à la télévision, à être régulièrement interviewé, donc il est certain que la traduction lui a ouvert ces portes-là et il a apporté une certaine célébrité à tel point que faisait partie de la liste des gens qui étaient proposés, qui est une liste assez longue, pour le prix Nobel. Après, ça ne s'est pas allé plus loin, mais régulièrement, on aimait bien dire que Max était un de nos nobélisables.
Ainsi s'achève ce magazine consacré à l'auteur occitan et l'humaniste Max Rouquette. À travers son recueil de prose narrative, Vers Paradis et plus particulièrement la fable La Tao de John Arik Fabre, le tombeau de Jean-Henri Fabre. Nous espérons vous avoir donné envie de découvrir la littérature occitane et ses auteurs, et l'importance de continuer à faire vivre les langues régionales qui font partie intégrante de notre identité. Nous remercions pour leur participation Jean-Frédéric Brun, président de l'association Amistat Max Rouquette, Jean-Claude Fauré, enseignant de langue occitane à l'université Paul-Valéry de Montpellier, à la retraite, et éditeur de littérature occitane aux éditions Jour, ainsi que Manon Combé, une étudiante en deuxième année d'occitan à l'université Paul-Valéry de Montpellier, qui nous a proposé une lecture d'un extrait de la fable. Une émission réalisée par Radio Campus Montpellier.
Des troubadours à Félix Castan. Un document radiophonique qui évoque la littérature ou la poésie des auteurs occitans du XIIe siècle à l'an 2000, proposé par le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.